Donc, nous voilà réunis pour cette dernière matinée avec la rélecture dont vous avez l'habitude. Donc, Nathalie Sartre-Lajoux qui est avec nous depuis dimanche soir, qui a suivi tout cela avec intérêt. Attention, Nathalie qui est journaliste et philosophe et qui est donc la rédactrice en chef adjointe de la revue Études. C'est la suite de Phosphore. Mais... Alors. Il n'y a pas d'image qui bouge, il n'y a même pas d'image du tout. Alors, pour la longueur des articles, ben voilà, c'est long. Mais dans le numéro de cette semaine, vous trouvez par exemple,
de ce mois,
oui, c'est le mois d'octobre, un article sur l'hégémonie du numérique, donc, qui rejoint parfaitement notre université, et l'autre article très intéressant sur la puissance sociale des émotions. On vit dans une société dominée par les émotions. Donc, en complément de Phosphore, que vous pouvez peut-être consulter pour vos petits-enfants, je vous conseille la lecture de la revue Études. Nathalie, je te laisse la parole.
Merci. Donc, je suis vraiment très heureuse d'avoir suivi ces 4 jours avec vous de conférences. Sur un sujet évidemment qui nous tient très à cœur quand on est journaliste. Alors moi je suis journaliste, mais j'ai la carte de presse, mais en fait j'ai été professeure de philosophie avant, en lycée, et j'ai été éditrice ensuite pour la jeunesse, et je suis à la revue Études depuis 18 ans. Donc la revue Études est une des plus vieilles revues d'idées françaises et qui a été fondée en 1856, c'est une revue jésuite. Nous sommes une toute petite rédaction, et donc c'est vrai que mobiliser 4 jours dans la semaine comme ça, voilà, c'était... Donc j'ai essayé de suivre toutes les conférences, mais il y en a 2 ou 3 que j'ai dû manquer, parce que, voilà, pour les besoins de la rédaction. Donc je vais vous faire une relecture, mais un peu subjective, hein. Et je pense que d'ailleurs, chacun d'entre vous, ou en groupe, puisque je sais que vous venez de régions différentes, et que vous avez l'habitude de converser ensemble, ben, je pense que vous pourrez aussi vous prêter comme moi à ce petit exercice. Donc moi, je vous livre le mien, ce que j'ai retenu de ces 4 jours. Il est évident que les mutations, le numérique a entraîné de profondes transformations de notre métier de journaliste, mais pas simplement. Le numérique a modifié complètement notre rapport au monde, notre rapport à la réalité, notre relation aux autres, notre rapport aux autres, hein, qui passe beaucoup aussi maintenant par la médiation des écrans. Dans l'hégémonie du numérique, l'article de David Le Breton dans la revue Études, il regrette qu'il n'y ait pas plus de place dans nos vies pour la conversation. Voilà. Que c'est vrai que le face-à-face, bon, ici on n'en a pas manqué, hein, on a eu beaucoup de... vous êtes à la fois connectés et vous avez aussi cet art que j'ai pu apprécier de la conversation.
Est-ce que tu peux reculer un poil du micro, s'il te plaît, 40 cm.
D'accord. Merci. Comme ça, c'est mieux comme ça ?
Parfait.
Oui, ça bouge moins.
Et on peut mettre un peu plus de
puissance. D'accord, très bien. Merci. Et puis, le numérique a modifié aussi notre rapport au temps et notre rapport à la vérité, comme on a pu le mesurer, et notre conception même du débat démocratique. J'ai beaucoup aimé le panorama esquissé par Alexandre Joux. J'ai trouvé qu'il était... Je ne sais pas si on dit Joux, mais je suis...
Oui, oui.
Je suis du sud-ouest, donc je prononce toutes les lettres. Donc c'est Joux. Et je retiens, en fait, parce que je trouve ça très éclairant, les 3 ruptures qu'il a mentionnées. C'est-à-dire, en 1990, première rupture, l'arrivée des chaînes satellites. C'est très important, parce que c'est l'information en flux continu qui met fin, finalement, au rituel de la grande messe du 20h et à la structuration complémentaire, j'avais jamais perçu ça comme ça, et j'ai trouvé ça lumineux, des médias traditionnels dans leur rapport à l'info. C'est-à-dire ce que la radio annonce, la télévision le montre et la presse écrite l'explique. Et cette première rupture, finalement, correspond à un émiettement de l'information et au développement de la concurrence plutôt que de la complémentarité. La deuxième rupture, celle qui est arrivée dans les années 2000, donc avec l'arrivée d'Internet, a accentué, bien sûr, la concurrence. Et le choix de la presse de mettre en ligne du contenu gratuitement a ouvert une question, me semble-t-il, qu'on n'a pas fini de résoudre encore, et qui va précariser toute notre économie en posant cette question, qui est prêt aujourd'hui, désormais, à payer pour avoir de l'information de qualité? A priori, j'ai retenu ce chiffre, il faut retenir un chiffre, c'est celui-là. Il n'y a plus que 16% de la population qui est prêt à payer pour un abonnement. Donc c'est quand même peu. Donc le passage au journalisme numérique, nous a-t-il dit, a changé aussi la nature même du métier de journaliste. Du journaliste de terrain, on est passé, nous a-t-il dit, au journaliste assis, j'ai bien aimé l'expression, c'est-à-dire qui est un rédacteur qui va récolter et synthétiser des infos qui sont recueillies par d'autres. Mais du coup, le journaliste risque moins le décentrement par rapport à ses préjugés, par rapport à l'imprévu aussi, que provoquent, suscitent les enquêtes de terrain et les rencontres de terrain. Souvent aussi, les rédactions ont fait ça pour des économies financières, parce que ça coûte cher d'envoyer des journalistes sur le terrain, mais on y a perdu aussi. Enfin, les journalistes n'étant plus sur le terrain, ça explique aussi que la mécompréhension qu'a pu susciter certains phénomènes, on l'a dit, comme les gilets jaunes. La troisième rupture, 2010, qui est vraiment fondamentale, c'est les réseaux sociaux, utilisés, nous a-t-il dit, par la moitié de la population mondiale, et qui sont désormais les premiers canaux par l'intermédiaire desquels les individus s'informent, c'est-à-dire prennent connaissance de l'actu. Ce n'est pas simplement vrai pour les jeunes, c'est la moitié de la population mondiale qui prend connaissance de l'actualité sur les réseaux sociaux, et qui prend connaissance aussi parfois de certains articles de presse, parmi tant d'autres contenus, en ignorant souvent la source de ceux qui lisent. Les réseaux sociaux permettent la circulation et la cohabitation de discours de registres différents, on l'a vu. Informations, opinions, des connaissances scientifiques, des commentaires, des rumeurs. Et donc la question qui se pose cette fois-ci, c'est comment ne pas se noyer dans ce flux d'informations continues? Comment distinguer une croyance d'une connaissance, une information juste, une fake news? En fait, tout un chacun peut produire et mettre en circulation des contenus dont la véracité n'est pas toujours vérifiée. Et cette configuration, elle est autant liée au support technique qu'à tous les contenus authentiques. La structuration même, c'est-à-dire qu'à l'idéologie qui sous-tend, en fait, ces nouvelles technologies du numérique, l'idéologie libérale et libertaire des patrons de la tech qui sont favorables à la mise en concurrence de tous les contenus, qu'ils soient authentiques ou faux, tant que ça fait de l'audience. Et ça, ça change la donne. Tant que ça fait de l'audience et tant que ça peut capter l'attention. Alors, il n'y a pas que des effets négatifs, c'est-à-dire cette dérégulation, elle a permis, je dirais positivement, peut-être qu'on ne l'a même pas assez dit ça, une libération de la parole, ce qu'on a appelé la libération de la parole, et l'entrée de nouveaux acteurs dans le monde de l'information. Moi, je pense à des collectifs qui se sont créés finalement sur les réseaux sociaux, comme le mouvement MeToo, mais aussi des youtubeurs, ça on en a eu. On a pu échanger avec certains lors de ces journées. Des influenceurs journalistes, et des fois pour le meilleur, comme par exemple Hugo Décrypte, qui est publicité par les moins de 25 ans. Donc c'est vrai que mes enfants, qui ont cet âge-là, c'est Hugo Décrypte. Ils ont accès à l'information par Hugo Décrypte. Et qui est, ils m'ont montré, j'ai pu voir avec eux, que c'était des résumés de l'info qui étaient extrêmement bien faits. Et surtout, c'est un influenceur qui cite ses sources, donc qui rend service à la presse, parce qu'il renvoie aux autres médias. Donc ça, c'est quand même très bien. Alors ça, c'est pour le meilleur, mais c'est vrai pour le pire, des influenceurs aussi qui se mettent au service d'une idéologie ou d'une marque dont on ne sait pas très bien, si vous voulez, d'où ils parlent. Et ça, c'est très problématique. Je dirais que, d'une façon générale, la suppression de l'intermédiation, elle transforme le domaine de l'information en champ de bataille économique et culturel. On a parlé à plusieurs reprises de guerre culturelle. Où, malheureusement, les plus radicaux se trouvent souvent en position de force. Les réseaux sociaux reposent sur la réactivité, sur l'émotion. Donc ils favorisent une communication instantanée qui renforce l'impératif de rapidité et qui mobilise les préjugés, les raccourcis intellectuels, plutôt que l'effort d'entrer dans un article long, c'est-à-dire ce que permet un article long, c'est-à-dire l'entrée dans une pensée complexe, dans une pensée plus nuancée. Ça, ça présuppose que ce soit un article de fond, ou bien des enquêtes au long cours, qui réclament justement ce temps long. Donc cette configuration des réseaux sociaux rend les individus plus réceptifs aux messages qui correspondent d'abord à leurs croyances, à leur goût. Et elle est accentuée par le fait que les producteurs de contenu numérique sont vraiment tout à fait au fait des avancées de la psychologie et du fonctionnement de notre cerveau, et qu'ils savent comment favoriser les biais cognitifs et comment nous rendre addicts à certains contenus. Enfin, on a vu que les réseaux sociaux renforçaient le phénomène de la formation des tribus, c'est-à-dire l'enfermement, certains même ont parlé de communauté sectaire, c'est un peu fort, mais au moins de tribus, c'est-à-dire dans l'enfermement dans des cercles où les membres se confortent dans leurs opinions. Alors on peut dire que ce phénomène, il existait déjà du temps de la presse traditionnelle, et que d'une certaine façon, les lecteurs du Figaro, de l'Huma ou de la Vie forment en quelque sorte, des tribus, et des tribus qui n'ont pas grand-chose en commun entre elles. Mais il est vrai que le phénomène du numérique a accentué cela, rendant le débat contradictoire, ça a été dit à plusieurs reprises, vraiment de plus en plus difficile. Alors, certains témoignages, confortés d'ailleurs, certains témoignages qu'on a pu entendre, notamment par les jeunes journalistes, confortés par des études, nuancent toutefois cette idée d'enfermement dans des bulles, en montrant que les internautes, et notamment les jeunes, naviguent dans différents réseaux sociaux en y recherchant une diversité d'opinions, une diversité d'infos, qu'ils sont vigilants à l'endroit des recommandations, voire, on a pu l'entendre durant ces journées, qui suivent des recommandations inverses. Et j'ai été très sensible, j'ai retenu quelques expressions, quelques invitations des jeunes journalistes, je les cite, à mettre les algorithmes à l'épreuve, je trouvais ça bien, reprendre le contrôle des algorithmes en choisissant ses paramètres de recommandation, et encore, créer des amis Facebook avec des gens qui ne pensent pas comme nous, plutôt qu'avec des gens avec lesquels on partage les mêmes goûts. J'ai trouvé que, voilà, bonnes initiatives, et j'ai trouvé assez intéressant toutes ces stratégies, finalement, les individus, les citoyens aussi peuvent avoir des stratégies comme ça de détournement des algorithmes, des stratégies, je dirais, il y a des stratégies de résistance individuelle et collective pour préserver nos libertés qui sont à la portée de tous. La question que je me pose, c'est ces stratégies-là, ces tactiques-là, est-ce qu'elles seront suffisantes et majoritaires ? Bon, j'en doute un peu, j'avoue. Je me dis que la résistance, elle viendra aussi sûrement par la réaffirmation de principes démocratiques auxquels nous tenons, et de la régulation portée notamment par l'Union européenne, qui, me semble-t-il, est le dernier rempart contre la convergence technicienne et idéologique telle que l'incarne l'alliance Musk-Trump. Et après, parce qu'on voit bien qu'il y a déjà le duo, il y a un duo d'ego, donc on voit bien que cette alliance, elle est aussi, elle est de nouveau fragilisée, mais d'autres prendront le relais. Je pense à Peter Thiel et à Vance. Et ça doit nous devons être vigilants. Certainement, les jeunes générations qui sont nées avec les réseaux sociaux ne sont pas dupes. Et pour discuter avec pas mal d'entre eux, je me rends compte de ça. C'est-à-dire, elles savent qui circule du vrai et du faux, parfois d'ailleurs après s'être fait piéger. Elles apprennent aussi à y distinguer ce qui relève du privé et du public, parfois, il est vrai, à leurs dépens, mais qui n'a pas fait comme ça des expériences, il faut bien faire des expériences finalement pour apprendre, il faut bien faire des apprentissages. Au mieux, elles prennent vraiment les réseaux sociaux comme des portes d'entrée, comme des tremplins, c'est pour ça qu'il faut y être, vers d'autres médias traditionnels. Elles les prennent comme des lieux de partage. Et j'ai retenu cette expression que pour que les réseaux ne deviennent pas antisociaux, il s'agit des réseaux sociaux, vous vous rappelez Anne d'Alembert, qui est, elle, très critique hein, par rapport aux réseaux sociaux, donc elle ne parle pas de réseaux sociaux, elle dit que c'est des réseaux antisociaux. Bon. Mais moi, je crois que pour que les réseaux ne deviennent pas antisociaux, utilisons-les comme des lieux de partage. Utilisons-les comme des lieux de partage pour relier, bah, par exemple, un article que vous avez aimé, un article de La Vie ou de La Revue Étude que vous avez aimé, une enquête, un documentaire. Et c'est Cécile de La Vie qui a dit vraiment haut et fort, partageons. Je crois que ça aussi, c'est ce que je veux dire. Partageons, utilisons les réseaux sociaux pour partager. Quant à l'IA, ben, l'IA, elle est quand même, je pense même dans nos métiers de journaliste, d'une utilité indéniable. Elle a des applications qui font gagner du temps. Je pense à la retranscription des entretiens, à la traduction, mais aussi, une journaliste, celle qui est des décodeurs du monde, j'ai oublié son nom, je crois, Iris, quand elle parlait aussi de l'exploration des données, quand on doit faire une enquête, en fouillant Internet, pour détecter des pièges aussi. Donc l'IA, elle a des applications utiles, c'est pas simplement un gadget. Mais à condition de se poser finalement les bonnes questions, de savoir doser son utilisation, de l'articuler finalement, à des facultés qui sont proprement humaines, des facultés de discernement, et à condition aussi de l'intégrer à un projet de société, au service du bien commun, et non au service d'acteurs privés de plus en plus puissants, ou de groupes de pression en tout genre. Ça, c'est loin d'être gagné. Toutefois, je dirais une inquiétude, par exemple, avec le perfectionnement de robots conversationnels comme ChatGPT, du type de ChatGPT. Le danger principal, me semble-t-il, semble être que l'IA engendre le triomphe d'une voix anonyme et uniformisée, standardisée, que l'on n'arrive plus à démêler les paroles qui ont servi de source, et que la singularité de nos voix se retrouve noyée dans la statistique et le bruit. Ça, c'est un vrai danger. Et là, je pense que j'ai bien aimé, finalement, le propos d'Anne d'Alembert, nous invitant à résister à cette standardisation, à résister à ce qu'elle appelait le mimétisme, avec la lecture derrière qu'elle avait, très nourrie, hein, de la pensée du philosophe René Girard. Ça, c'était ce que j'ai retenu de la première journée. Pour la deuxième journée, on a vu que les outils numériques ont multiplié les canaux de diffusion en créant une surabondance d'informations, au point que l'on parle d'infobésité, de fatigue informationnelle. Et ça, ça décourage les tentatives de décryptage. La youtubeuse Aude a parlé, Aude, je ne sais plus son nom. Aude Fabre, pardon, nous a parlé des travaux du sociologue Gérald Bronner et La démocratie des crédules. Je trouve cet ouvrage vraiment remarquable. Et Gérald Bronner explique bien dans La démocratie des crédules comment plus d'infos devient trop d'infos et devient du coup moins d'infos de qualité. Donc dans un monde où il y a trop d'infos, c'est vrai que la frontière entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas devient difficile à tracer, ce qui est très décourageant pour le citoyen lambda, en fait, qui s'habitue à une forme d'indifférence à l'établissement de la vérité. Et c'est ça, c'est ce climat-là, en fait, d'indifférence qui s'installe progressivement à la vérité, qui est quand même dangereux. J'en viens à ce qu'on a appelé la post-vérité. Ce que l'on appelle la post-vérité, c'est une configuration à la fois médiatique et politique selon laquelle la crédibilité d'un discours dépend moins de son adéquation aux faits qu'à sa correspondance avec des croyances, avec les croyances d'une partie de la population, et ceci sur fond de méfiance par rapport aux élites. Donc le terme désigne un nouveau régime d'indifférence à la vérité, caractérisé par une défiance par rapport au savoir établi, que ce soit la presse, ce que disent les journalistes, mais aussi les experts, c'est-à-dire l'université. Il a été, en fait, c'est un vieux terme, et c'est un terme qui a été utilisé la première fois par le dramaturge américain qui s'appelle Steve Tesich. Il a utilisé la première fois ce terme-là de post-vérité en 1992, pour dire déjà en 1992 à quel point s'installait dans la culture américaine une forme d'indifférence à la vérité. Et ceci, notamment au moment de la guerre du Golfe. Le phénomène, en fait, s'est amplifié après, avec le 11 septembre 2001 et toutes les théories du complot qu'il y a pu y avoir à ce moment-là. Puis, ensuite, la notion de post-vérité s'est, je dirais, popularisée au point de rentrer dans le dictionnaire de l'Université d'Oxford en 2016, c'est-à-dire au moment de l'élection de Trump et au moment du Brexit. Et il aura fallu, donc vous voyez, entre 1990 et puis, je dirais, 2016 et puis les années 20, il aura fallu attendre quelques décennies pour que le terme se diffuse et puis s'exporte et qualifie aujourd'hui ce rapport sceptique à des phénomènes qui sont avérés, par exemple comme le changement climatique, et à la production de vérités alternatives relevant de ressorts qui sont beaucoup plus émotionnels que rationnels. Alors, comme nous l'a rappelé la philosophe Camille de Villeneuve, et ça je trouve très important, puis Monique Bojard l'a dit aussi dans son fil rouge, elle a insisté là-dessus, et c'est le point, me semble-t-il, central, il ne faut pas confondre le mensonge politique tel qu'il a été largement pratiqué par les régimes, je dirais, autoritaires, mais pas simplement d'ailleurs, le mensonge d'État, il est pratiqué aussi dans la démocratie, et je dirais le régime de la post-vérité, qui ne se caractérise pas par la substitution du mensonge à la vérité, mais par cette indifférence à la vérité dès lors qu'elle nous dérange, dès lors qu'une vérité ne nous convient pas. C'est ça. Et dans un monde de post-vérité, la vérité n'a plus d'importance, et un président peut dénigrer des rapports scientifiques qu'il n'a même pas lus en quelques tweets. C'est ça. Mais d'une manière aussi plus générale, je dirais, ce phénomène-là nous touche tous. Et même si il est notoirement incompétent dans un domaine, chacun d'entre nous se sent autorisé désormais à donner son avis, à dire sa vérité, de telle sorte que la notion de vérité se désintègre. Et avec elle, tout le tissu social. J'ai trouvé intéressant, même si c'était compliqué à suivre, je ne vais pas vous retracer le parcours, évidemment, mais que Camille de Villeneuve nous rappelle quand même la part de responsabilité aussi des philosophes dans cette histoire, depuis les sophistes, en passant par Nietzsche et jusqu'au pragmatisme. Mais je ne vous refais pas le parcours. Mais c'est intéressant, en tout cas, de comprendre qu'il y a une responsabilité des philosophes un peu inattendue. Enfin, voilà, c'était pas évident. Et c'était bien qu'elle nous rappelle ça dans ce désaveu de la vérité. Avec la perte du goût de la vérité, c'est la notion de monde commun qui se délite. L'échange devient impossible, qu'il s'agisse d'ailleurs d'informations ou de connaissances. C'est-à-dire qu'on assiste à une dégradation d'une info ou d'un résultat scientifique en simple opinion que chacun se sent libre de contester, surtout si ça ne lui convient pas. Et là aussi, on se souvient d'un certain ministre de l'Éducation, nullement climatologue, mais professant dans certains médias, de manière tout à fait décomplexée, que le réchauffement climatique ne devait pas être pris au sérieux. cette propension à donner son avis sur tout s'est largement répandue, et chacun est un petit peu sommé de choisir son camp et de se prononcer pour ou contre les OGM, pour ou contre le nucléaire, pour ou contre la 5G, pour ou contre les nanotechnologies. Et je dirais que les médias ont parfois contribué à cette, les médias traditionnels, ont parfois contribué à cette polarisation, justement en réduisant le débat à une confrontation de points de vue pour ou contre. Ça s'est souvent manifesté comme ça, et notamment dans la presse écrite. Les journalistes étaient très contents quand il y avait, il y a débat puisqu'on a mis, on a présenté le pour et le contre. Oui. Mais en fait, quand on a le point de vue pour et le point de vue contre, ça, on voit bien que c'est polarisé, hein, si vous voulez, mais on ne voit pas toujours où se situent les points de désaccord, en fait. Et le fait qu'il n'y ait pas une véritable conversation, chacun reste un petit peu enfermé dans son point de vue. Et n'est pas amené, comme dans une véritable conversation, à prendre au sérieux les objections de l'autre. Donc je pense que c'est impératif aujourd'hui, vraiment, de réinventer de nouvelles formes de débat. Je pense que c'est un enjeu crucial pour nos démocraties, afin de sortir de cette culture du clash. Alors c'est vrai que les jésuites, je dis ça parce que je trouve que c'est une... dans leur collège... Ils ont réintroduit la disputation, hein, qui est une vieille pratique qui date d'une, c'est vieux, hein, ça date de l'université médiévale. Mais cette pratique de la disputation, moi je l'enseigne en fait, je l'enseigne à l'ICP avec des étudiants qui sont en master d'affaires publiques et je peux vous dire que du coup j'en vois les effets sur les étudiants. Ça les déplace complètement, c'est-à-dire ça les oblige vraiment à se mettre à la place de ceux qui ne pensent pas comme eux. Ce n'est pas un concours de performance, hein, la disputation. La disputation, c'est une controverse. Je dirais que toute l'histoire des idées, mais l'histoire des sciences, l'histoire de chaque discipline, c'est une histoire de controverse. Vous voyez ? On a perdu de vue ça. Même à l'université, on ne sait plus ce que c'est que la controverse, que la disputation. Même à l'université, les opinions se sont polarisées. C'est ça qui est gravissime. Ce n'est pas simplement dans la presse, c'est aussi à l'université. Que les débats se sont polarisés et qu'il n'y a plus véritablement de controverse. Or, la controverse et la disputation, ben ça m'oblige, ça oblige à se mettre. C'est une recherche collaborative de la vérité qui oblige finalement à écouter les arguments de celui qui ne pense pas comme nous, à s'appuyer, à reformuler ses objections en s'appuyant sur elles pour avancer et progresser dans l'argumentation. C'est un travail. C'est long à mettre en place, hein, si vous voulez une disputation. Mais je peux vous dire que selon moi, ça devrait être pratiqué dans tous les établissements scolaires, hein, à partir, et dans toutes les universités. Et pour moi, c'est un complément, je suis très heureuse d'enseigner ça, parce que je trouve que c'est un complément à mon métier. Et quand Aymeric disait, bon, la conversation comme ça, la controverse, c'est vrai que c'est un enseignement oral. Et ça rejoint aussi le goût que les étudiants aussi et les jeunes ont pour l'oralité aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ça marche bien. Ils sont vraiment candidats pour ça. Ils aiment beaucoup ça. Mais je pense, je suis absolument convaincue que l'on peut introduire ça aussi à l'écrit. En tout cas, on est en train de préparer une nouvelle formule d'étude pour les 170 ans de la revue en septembre 2026. Et on va introduire aussi à l'écrit la disputation. Alors, je pense que la polarisation des opinions, ce n'est pas une fatalité, en fait. Et qu'elle peut être atténuée en soutenant les journalistes dans leur mission cruciale, et ça a été dit à plusieurs reprises, leur mission qui est d'être des médiateurs. Et le succès des missions, par exemple, comme c'est ce soir, prouve qu'un débat respectueux, maîtrisé, encadré, permet une meilleure compréhension des sujets par le plus grand nombre. Je signale aussi la mise en place par des médias, d'espaces de dialogue entre les citoyens, qui permet aux journalistes de renouer avec leur posture de médiateur, davantage qu'avec la posture d'instigateur de polémique, à laquelle on les a trop habitués. Et là, je pense au dispositif Faut qu'on parle, qui a été lancé par le Média Brut, associé au quotidien La Croix, et qui permet à une personne de rencontrer un inconnu ne pensant pas comme elle. Je pense que ça, ce sont de bonnes initiatives. Dans les pratiques innovantes aussi de la deuxième journée qui nous ont été présentées, j'ai retenu la nécessité d'utiliser des formats plus pédagogiques. Ça, ça vaut beaucoup pour la revue d'études, mais pour, je pense, pour tous les médias, notamment à la manière des décodeurs du monde, que nous a présenté Iris Dereux. J'ai été sensible à la nécessité d'avoir des écritures plus simples dans le style, mais aussi dans la mise en forme des données, c'est-à-dire des graphismes, des outils qui permettent de visualiser l'information. Et notamment en s'inspirant des codes du design, alors que ce n'était pas forcément notre culture à nous, journalistes. Je trouve que ça, c'est vraiment une bonne idée. Je pense que le format n'est pas le seul enjeu. Il importe aussi que les contenus ne soient pas simplement anxiogènes. Et ceci avec la valorisation d'un journalisme qui met en valeur de bonnes initiatives et pas simplement les mauvaises nouvelles. Alors je crois que cela, ça a essaimé dans les rédactions, notamment depuis les initiatives de Reporters d'Espoir. Nous, quand Reporters d'Espoir avait mis ça en place, après, j'avais demandé à Gilles van der Putten de nous expliquer qu'est-ce que c'était qu'un journalisme de construction, un journalisme de solution. Et je pense que ça, c'est important, parce que ça nous ramène encore une fois au rôle fondamental du journaliste comme passeur, ça a été dit, comme médiateur, c'est-à-dire à sa fonction sociale. Le journaliste a une fonction sociale qui est de créer des liens, de créer des ponts entre des mondes qui ne se parlent plus. Et là aussi, dans cette fonction, enfin, si vous voulez, de mettre en avant quelques bonnes initiatives, encore une fois, c'est les enfants qui m'ont indiqué ça, mais dans Hugo Décrypte, par exemple, chaque semaine, il retient les 5 bonnes nouvelles de la semaine. C'est bien ça. Quelles sont les 5 bonnes nouvelles de la semaine ? Sur Instagram. Hein. Et la chaîne aussi YouTube, qui s'appelle Tous tes riens, animée par le journaliste scientifique Pierre Girard, fait dialoguer agriculteurs et écologistes en transformant un sujet pourtant exposé aux polémiques et à la polarisation en terrain de convergence. Je me dis que ça, voilà, c'est le cœur de notre métier aujourd'hui très important de journaliste, d'être des médiateurs, d'être des passeurs, plutôt que des instigateurs de polémiques. Je crois que ça, c'est vraiment très important. Enfin, dans les pratiques innovantes, j'ai retenu la nécessité de réinventer la force du collectif. D'un journalisme de collaboration, on a parlé, de journalisme de collaboration, mais la force du collectif. Et la force du collectif contre le culte de la personnalité, la personnalité de l'animateur, la starisation, si vous voulez, de l'éditorialiste. Et je pense que la force du collectif, revenir à la force du collectif, c'est vraiment essentiel. À mon sens, c'est ce qu'on appelle une rédaction. Et moi, c'est ce que j'aime. Dans la vie d'une rédaction, c'est ça. C'est cette énergie du collectif. Une rédaction, c'est un lieu où on va discuter, où on va parfois se disputer, pour savoir quel sujet il faut mettre en avant et pour savoir comment les traiter, et c'est très précieux. Et chacun a sa place, hein, voilà. Chacun a sa place, et ça dit que la recherche de la vérité, c'est pas simplement le point de vue d'une personne, la mise en avant du point de vue d'une personne, mais c'est vraiment un travail collaboratif. C'est le fruit d'un travail collaboratif. Donc je pense qu'il est très important dans nos médias de remettre en avant le collectif des rédactions. C'est très précieux. Troisième journée. L'information et la démocratie. C'était un peu le thème de la troisième journée. Et l'information et la démocratie forment vraiment un duo inséparable. Je pense que le bon fonctionnement de l'un est nécessaire au bon fonctionnement de l'autre. Et on le sait. Dès que ça ne va pas bien dans une démocratie, on commence, et on sait que ça ne va pas bien dans une démocratie, quand on commence à s'attaquer par les journalistes. On commence toujours par s'attaquer aux journalistes. Et ensuite, on s'attaque à la justice. Mais ça commence souvent par les journalistes. Elsa Dacosta a rappelé qu'étymologiquement, informer signifiait, je l'avais oublié, c'est tellement simple, mais je l'avais oublié, donner forme à. C'est intéressant cette étymologie. Ça veut dire que l'information donne forme à une opinion publique par une certaine représentation du monde. D'où la grande responsabilité des journalistes dans les représentations du monde qu'ils véhiculent. Et d'où aussi la nécessité, a-t-elle dit, de prendre soin d'eux. Dans le rapport des états généraux de l'information auquel Elsa Lacosta a participé, et elle regrettait beaucoup, je me souviens, parce que je lui avais demandé à l'occasion de la publication de ce rapport, là aussi un article dans la revue Études, et elle était vraiment assez catastrophée que même les journalistes un peu dénigrent, enfin, ne s'intéressent pas beaucoup à ce rapport. Pourtant, elle pointe, ce qui était aussi pointé dans ce rapport, c'est la santé mentale. Pas simplement, si vous voulez, créée par le numérique dans toutes les catégories de population, mais notamment de la santé mentale des journalistes. Florence Aubenas, dans ce rapport, soulignait la nécessité, la journaliste, porteur, Florence Aubenas, elle soulignait la nécessité de prendre soin de ceux qui informent, en disant que prendre soin de ceux qui informent, c'est prendre soin de la démocratie. En fait, le burn-out des journalistes est très important, il est préoccupant. 87% des journalistes interrogés déclarent ressentir une pression difficile à supporter, accrue, pour produire le plus rapidement possible des contenus. Ils disent aussi qu'ils se font facilement dévorer par les réseaux sociaux en subissant de plein fouet la violence des altercations qui y ont lieu, et souvent d'ailleurs ils se retrouvent pris à partie dans des polémiques d'une grande violence. D'où la sage décision de certains quotidiens, je pense au quotidien Ouest-France, d'inviter les journalistes à se retirer du réseau social par exemple Twitter, enfin anciennement Twitter, de X. Dans les mesures de bon sens énoncées par Elsa Dacosta et dans les mesures que préconisent les états généraux de l'information, je passe sur, ça m'a un peu atterré, mais sur le minimum de 25% de journalistes dans une rédaction. Ça en dit long quand même, hein, de défendre la nécessité de 25% de journalistes dans une rédaction. Ceci pour qu'ils ne soient pas complètement remplacés par l'IA. Ça me semble une telle évidence. Je retiens aussi, et ça me semble un point très important, la nécessité d'une meilleure représentation dans les rédactions, en fait, une meilleure représentation de certaines réalités sociales. De toutes les réalités sociales, car, nous a dit Elsa Dacosta, j'ai beaucoup aimé cette phrase, ce qui n'est pas raconté n'existe pas. Je trouvais ça très fort. Alors, évidemment, le manque de représentation, alors, il y a plein d'exemples, mais que ce soit, par exemple, commençons par le manque de représentation, c'est pas vrai pour Phosphore, mais pour d'autres, sur des médias de grande audience, en tout cas, le manque de représentation des moins de 25 ans. Hein, sur les principaux carrefours d'audience, je pense que du coup, c'est pas étonnant qu'ils aillent sur les réseaux sociaux et qu'ils ne fréquentent guère des médias où ils ne se sentent pas représentés, en fait, et qui ne parlent pas des sujets qui les intéressent. Autre exemple, et ça me paraît aussi très important, qu'Elsa a souligné, c'est la concentration des journalistes dans les grandes métropoles. Bon, ce n'est pas là une grande concentration des journalistes à Paris, voire même elle a parlé d'une grande concentration des journalistes dans le 11e arrondissement de Paris, dans le bilan. Et je pense que ça, eh bien, ça aggrave la déconnexion avec les territoires les plus éloignés. Et moi, je peux vous dire que je mesure les bienfaits, ça fait 4 ans. J'ai quitté Paris et que je me suis installée, je suis originaire du Sud-Ouest, et je suis revenue m'installer dans le Sud-Ouest, donc je suis à Libourne, et je mesure à quel point c'est très important de rester connectée avec les territoires, en fait. Voilà. Comment restaurer la confiance des Français, qui sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des médias, sans se rapprocher d'eux, et sans mesurer quelles sont leurs préoccupations, si vous voulez, et sans leur donner aussi la parole. Alors, on voit ça, hein, parce que je me souviens notamment sur la question des accents. Je crois que c'est Mark Epstein qui a parlé de ça. Hein, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui parlent avec des accents. Alors, on en parlait ce matin à table, mais Jean-Michel Apathy a fait beaucoup pour ça, mais il est assez rare finalement, hein, à parler avec un accent. Et moi, je me souviens, je n'ai pas fait d'école de journalisme, j'ai fait des classes prépa à Toulouse, mais la première chose qu'on nous apprenait, c'était à perdre notre accent. Bien tout ça. On avait un accent dans le Sud-Ouest, on avait un accent, alors je sais que ça s'entend encore quand je vous parle à la radio, mais on avait un accent très prononcé. Alors c'est vrai que quand il fallait dire un alexandrin de Racine, c'était pas très heureux, s'il vous plaît. Mais en fait, je crois que avec les accents, ben c'est la singularité des voix aussi qui se perdent. Et ça, c'est très. Quand je parlais d'une voix uniformisée, standardisée, ben ça en fait partie, ça. Hein, vous voyez, donc, je pense que c'est important. Alors, j'ai aussi été très sensible à la façon dont Elsa da Costa n'a cessé de désigner les citoyens. Elle a parlé des citoyens, lecteurs, auditeurs, spectateurs des médias. C'est-à-dire comme vous, comme des parties prenantes de l'avenir des médias. Et ça, c'est très important. Plutôt que de simples consommateurs, ou de simples bénéficiaires, ou de simples cibles d'audience. Vous êtes des acteurs aussi de l'avenir de nos médias. D'où l'importance aussi d'une société de lecteurs comme les Amis de la Vie. Ça, c'est, il me semble que j'ai trouvé ça franchement formidable, ces 4 jours passés avec vous. Et justement, je pense que pour une rédaction, c'est très précieux de pouvoir rencontrer ces lecteurs, de ne pas être déconnecté, hein, si vous voulez, de ces lecteurs. Et très certainement, une meilleure inclusion de l'ensemble des lecteurs, de l'ensemble des citoyens dans les médias, je pense que c'est un enjeu pour les années à venir, parce que ça sera un levier aussi important pour lutter contre la polarisation des opinions. Alors, nous avons vu aussi dans cette troisième et dernière journée l'importance cruciale de l'éducation aux médias. L'éducation aux médias pour tous les publics et à tous les âges de la vie. C'est un choix d'investissement politique, nous a-t-il été dit. Je pense que c'est vrai, c'est un choix d'investissement politique et qui est décisif, pas simplement pour l'avenir de nos médias, mais aussi pour l'avenir de notre démocratie. La question éducative première me semble être la formation de l'esprit critique, la formation au discernement, l'apprentissage de la conversation et de la controverse, je l'ai dit ça, avec celui qui ne pense pas comme nous. Mais aussi le droit et le devoir de se déconnecter régulièrement. Hein, c'est une hygiène. Hein, faire un jeûne de temps en temps, du numérique. Hein, voilà. Et je pense que pour ça, ben les contrepoints méditatifs que nous a offert Anne Lemaître durant ces 3 jours, nous y ont invités au commencement de chaque journée. Et peut-être qu'on devrait... Voilà, commencer aussi, plutôt que commencer la journée en regardant les notifications de notre téléphone, commencer par une journée, par un petit exercice comme ça de méditation, comme elle nous y a invité. C'est des lieux, parce que, en tout cas, de chacun à sa manière, mais avec un lieu de, quel que soit le type de méditation que l'on pratique, mais c'est un lieu de ressourcement. Et ces lieux de ressourcement ne sont pas simplement nécessaires pour nourrir l'intériorité, mais aussi pour ensuite mieux nous relier aux autres. Et mieux nous former ensuite aux délibérations, aux conversations, aux capacités délibératives dont nos démocraties ont besoin. J'ai retenu, je dirais, et presque, ce sera presque mon mot de conclusion, j'ai retenu cette parole de Marc Epstein, ce journaliste qui est de l'association La Chance. J'ai beaucoup aimé son intervention. Et avec un accent d'ailleurs. Et j'ai retenu ce qu'il a dit. L'écosystème, nous a-t-il dit, a changé. Et c'est de plus en plus compliqué. Mais il faut rester dans son couloir de nage, c'est-à-dire dans son cœur de métier finalement, et continuer à nager. J'ai beaucoup aimé cette image, parce que je pense que pour rester dans son couloir de nage, continuer à nager, ben, ce qui importe. Eh bien, c'est un mot auquel je suis très attachée, c'est le compagnonnage. Vous voyez, dans compagnonnage, il y a l'idée qu'il faut nager ensemble, on est tous embarqués. J'aime bien ce terme-là, c'est-à-dire que j'aime le compagnonnage, je dirais, sous toutes ses formes. J'aime bien mes compagnons jésuites, le compagnonnage est très important chez les jésuites, mais j'aime le compagnonnage, je dirais, sous toutes ses formes, pour ça, parce qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul, et c'est très important dans une rédaction aussi, de se sentir... Il y a vraiment une énergie qui est puisée, dans les moments de découragement, y a une énergie quand même qui est puisée dans le collectif, dans les moments aussi de sentiments où on désespère un peu du monde, on a le sentiment que tout va mal. La conversation, l'échange avec les autres, ça permet quand même de redonner un petit peu de... Le partage des points de vue des autres, ça redonne quand même de la confiance. Donc, nous, on a besoin à la fois rester dans son couloir de nage, et continuer à nager et valoriser aussi le compagnonnage. Et le compagnonnage, c'est vrai avec l'équipe de rédaction, avec ses collaborateurs, auxquels je suis très attachée, à ce collectif-là. Mais aussi, c'est vrai avec les lecteurs, parce que vous faites partie du compagnonnage. Vous êtes aussi une compagnon, dans un média. Et on voit, on mesure ça avec l'attachement que vous avez à votre hebdomadaire La Vie, montre bien ça. Vous êtes des compagnons. Vous êtes les compagnons du journal. Et comme l'a dit la youtubeuse Haute Femme, en fait, cette confiance des lecteurs, elle est vraiment très importante pour les journalistes. Je reprends ses propos. Aidez les médias. Vous aiderez vous-même dans votre droit à une information de qualité. Et ça, voilà, j'ai trouvé aussi ce propos vraiment très, très fort. Et enfin, en tant que chrétien, alors, parce qu'on a terminé là-dessus, et en tant que chrétien, les médias chrétiens ont très certainement un rôle à jouer pour favoriser le pluralisme. Et je dois dire d'ailleurs que quand je suis rentrée, ce qui m'a frappée, quand je suis rentrée dans un média chrétien, je me suis dit, comme étude, en tout cas, j'ai pris conscience que c'était beaucoup plus difficile de faire débattre les chrétiens entre eux, les chrétiens de sensibilité différente. C'était ça, c'était un défi extrêmement difficile. C'est beaucoup plus facile, finalement, à nos médias chrétiens de discuter, de faire des ponts avec le monde non chrétien. J'ai trouvé ça beaucoup plus simple. Mais créer le débat, aujourd'hui c'est un enjeu majeur, entre des catholiques, des chrétiens de sensibilité différente, ça, voilà, c'est un pour dépolariser, ça me paraît très important. Alors, j'ai vibré quand Aymeric Christensen a parlé de l'importance de créer un média de rassemblement et non un média de ressemblement. Je me suis reconnue complètement dans ce projet-là. Je pense que c'est un enjeu crucial, ça, pour La Vie, comme pour les autres médias chrétiens, La Voix, La Revue Étude et d'autres, le journal Réforme. C'est important que l'on se serre les coudes. Donc aussi, le fait que je sois vraiment très heureuse, je le redis, d'être avec vous aujourd'hui, c'est très important que l'on se serre les coudes et que l'on se rassemble à un moment où certains politiques entendent mener des batailles culturelles, où le catholicisme et le christianisme seront instrumentalisés comme des identités de ressemblement plutôt que de rassemblement. Alors c'est vrai que je dois dire que je suis dans le tempérament plutôt optimiste, mais je reconnais que quand même, je n'ai jamais été aussi inquiète pour l'avenir de nos démocraties et pour l'avenir de nos médias. Et on comprend, les deux sont liés, on l'a bien compris lors de ces journées. Mais je préfère quand même parier sur l'avenir et que l'avenir reste ouvert. Je fais confiance aux générations à venir et là-dessus aussi, ça m'a fait plaisir de rencontrer, d'écouter les jeunes journalistes à cette occasion. Les jeunes journalistes, les journalistes débutants, qu'on n'a pas toujours l'occasion en fait, de croiser, moi, c'est une toute petite rédaction. Et de les entendre, je me suis dit, il y a quand même une maturité, il y a une bonne relève. Et vraiment, ils m'ont impressionnée. Enfin, hier, j'ai appris quand même une bonne nouvelle. La cessation de La Vie n'est pas une option. Alors, je dois dire que la cessation de La Vie n'est pas une option. En tant que chrétienne, c'est bien ce que j'espère, que la cessation de La Vie ne soit pas une option. Que La Vie soit plus forte, que La Vie soit plus forte que tout. Et je dois dire qu'un des moments forts, sur les terres de Jean Ferrat, un des moments que j'ai trouvé bon dans ces journées, ce fut de pouvoir chanter avec vous. Que c'est beau, La Vie. Que c'est beau, La Vie. Merci.